Véroa Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Le Monde aujourd'hui, Jean-Roger Billon à ce micro, au sommaire de cette édition du lundi 28 novembre 2022. Coupe du monde de football, le Ghana a défait la Corée du Sud 3-2. Le Cameroun arrache le nul contre la Serbie 3-3. Calme relatif dans l'est de la RDC, même pas de retrait des zones occupées par les rebelles du M23. Au Cameroun, un éboulement a fait une quinzaine de morts lors de funérailles à Yaoundé dimanche.
C'était trop grave. Le motoman est mort sur place et il y avait beaucoup de blessés.
Reportage à suivre dans la partie magazine. Au Comores, l'ex-président Ahmed Abdallah Sambi, condamné à la prison à perpétuité. Pékin tente de freiner le mouvement de colère d'une ampleur historique avec une sortie massive des policiers. Bonsoir, bienvenue. On commence par le spécial Coupe du Monde avec Eric Manirakiza. Mondial 2022, après une défaite frustrante face aux Portugais, 3-2, les Ghanéens prennent leurs 3 premiers points dans le groupe H et une belle option sur la qualification avant vendredi et la revanche du Mondial 2010 contre l'Uruguay. Bonsoir Eric.
Bonsoir Jean-Roger. Un doublé de Mohamed Kudus a permis au Ghana de battre la Corée du Sud 3-2 lors d'un match à rebondissement et de se relancer dans la course au 8e de finale au Mondial 2022. Ce lundi, à l'Education City Stadium de Doha. Les Black Stars parviendront-ils à rééditer les exploits des Coupes du Monde de 2006 et 2010? En Allemagne, ils avaient atteint les huitièmes, éliminés par le Brésil de Ronaldo. En Afrique du Sud, ils avaient été sortis en quart de finale au tir au but lors d'un match mémorable contre l'Uruguay. Au Qatar, pour leur 4e participation à la Coupe du Monde, les joueurs d'Otto Addo se sont au moins donné les moyens de s'offrir une sorte de 16e de finale contre l'Uruguay dans 4 jours.
Les Lions indomptables ont sauvé le nul contre la Serbie 3-3 dans le match le plus renversant depuis le début de la Coupe du Monde lors de la deuxième journée du groupe G.
Tout à fait, miracle à la Camerounaise. Vincent Boubacar, capitaine relégué sur le banc début même de la compétition, a d'abord réduit le score dans l'aube astucieux, 63e minute, puis donné la balle de 3-3 à Eric Maxime Choupo-Moting, 66e minute. Le résultat est sans doute insuffisant pour les deux équipes au Mondial 2022, mais bon pour le spectacle ce lundi à Doha, où les deux équipes ont mené au score. Suivez la réaction de Marie-Jeanne Abega, amatrice de football jointe à Yaoundé au Cameroun.
On aurait fait mieux si on avait aligné de prime abord le duo Choupo-Moting et Aboubakar Vincent. On aurait fait mieux. Bon, mieux vaut peut-être ce match nul que la défaite, mais on aurait fait mieux.
Et contre le Brésil, est-ce que vous espérez se qualifier?
J'ai confiance en mon pays. Nous avons souvent gagné les matchs les plus compliqués. Et généralement, c'est quand on ne vend pas cher la peau de l'équipe nationale du Cameroun qu'elle offre une surprise. Et je crois que l'équipe du Cameroun sera la part belle à l'équipe du Brésil.
Lors de la première rencontre contre la Suisse, les Lions indomptables se sont inclinés sur un but de l'attaquant né au Cameroun, Brill Embolo, ce qui avait mis en colère certains Camerounais. Mais pour Marie-Jeanne Abega, c'est le Cameroun qui a gagné. Suivez.
Moi, je crois que c'est toujours le Cameroun qui gagne. Ça veut dire que le Cameroun a des talents et ces talents-là, ils peuvent s'exprimer n'importe où, ils peuvent s'exprimer sur toute la planète et ils sont les meilleurs. Moi, je félicite le Camerounais qui a marqué nos buts. Ce n'était pas intentionnel. C'était un match et il était opposé à l'équipe de sa terre natale. Donc, il s'est fait aussi un nom. Et c'était une occasion pour lui. Moi, je ne le connaissais pas avant ce but. C'est lorsqu'il a marqué nos buts qu'il s'est révélé à la face du monde. Et je crois que c'est toujours le Cameroun qui gagne parce que c'est un Didier. Des joueurs talentueux. Lorsque le but a été marqué, moi, je n'ai pas vu des actes de violence. Plutôt, la police est allée sécuriser le domicile de sa grand-mère. Et les gens étaient plutôt tout autour, en train de boire et en train de boire dans un bistrot, et tout en félicitant le jeune homme qui a marqué le but. Moi, je n'ai pas vu des actes de violence. Donc, les images peuvent bien circuler sur les réseaux sociaux, mais qu'on ne les attribue pas à la barbarie venant du Cameroun, je ne pense pas.
Dans l'autre match, malgré l'absence de Neymar blessé, le Brésil s'est qualifié ce lundi pour les huitièmes de finale du Mondial. en battant la Suisse 1-0 à Doha grâce à un but en fin de match de Casemiro avec 6 points. Les Brésiliens sont en tête du groupe G. Les Suisses, 3 points, devront pour leur part valider leur qualification vendredi contre la Serbie qui n'en compte qu'un seul point après son nul contre le Cameroun dans l'après-midi. Et le Portugal de Cristiano Ronaldo s'ouvrira les portes des huitièmes de finale en cas de succès contre l'Uruguay. Après 36 minutes de jeu, le score est toujours nul, 0-0.
Demain, la bataille s'annonce incertaine entre l'Équateur et le Sénégal, toujours dans la course.
Comme au Mondial 2018 en Russie, revoilà le Sénégal avec son destin en main au troisième match contre une équipe sud-américaine, l'Équateur. Cette fois, les joueurs d'Aliou Cissé sont presque obligés de l'emporter. Un match nul ne suffirait pas ou alors il faudrait que les Pays-Bas perdent par plus de 2 buts d'écart contre le Qatar déjà éliminé. Suivez la réaction du sélectionneur sénégalais Aliou Cissé.
Nous savons qu'il n'y a pas de calcul à faire. C'est un match qu'il faut impérativement gagner pour pouvoir avoir la chance de continuer cette aventure-là. Tous les scénarios sont envisageables. Effectivement, il leur faut un point. En début de ce match-là, ils l'ont déjà, ce point-là. Donc c'est à nous de faire le nécessaire justement pour faire bouger le match et essayer de marquer ce but-là qu'on désire tant. Faut pas qu'on rentre sur ce terrain tétanisé et pensant à l'enjeu de ce match-là. Nous savons que tout peut se passer dans ce match-là. Ça peut être un match bloqué, ça peut être un match frustrant, mais le tout, c'est garder justement cette lucidité-là et on sait que n'importe quand, le passé nous l'a déjà montré qu'on était capable de marquer.
Dans un groupe B encore indécis, la dernière journée mardi s'annonce brûlante entre le choc Iran-États-Unis à forte portée symbolique et politique et le derby Angleterre-Pays de Galles, avec à la clé la qualification pour les huitièmes de finale du Mondial 2022.
Voilà, c'était le point de cette journée du 28 novembre 2002 à la Coupe du Monde avec Eric Manirakiza. Dans un instant, la suite du journal. Dans le reste de l'actualité, en Somalie, les forces de sécurité ont mis fin aujourd'hui au siège d'un hôtel du centre de Mogadiscio, la capitale occupée par des islamistes Al-Shabaab, au terme d'affrontements qui ont fait au moins 14 morts, dont 8 civils, rapporte la police. 8 civils ont été tués, ainsi qu'un policier par les assaillants, qui étaient au nombre de 6. 5 militaires ont été blessés, les terroristes ont tué 9 personnes, dont un soldat. L'un s'est fait sauter, les 5 autres ont été tués par les forces de sécurité, a indiqué Sadi Kaden Ali, un porte-parole de la police. Les forces de sécurité ont secouru au total 60 personnes dans l'hôtel. Dans l'est de la RDC, le cessez-le-feu entre les rebelles du M23 et l'armée semble tenir ce lundi. Cependant, aucun mouvement de retrait des zones occupées par la rébellion ne semble s'amorcer alors que débute à Nairobi des pourparlers de paix. Eddie Zango.
Une nouvelle session des pourparlers avec les groupes armés actifs dans l'Est de la République démocratique du Congo s'est ouverte lundi à Nairobi sans les rebelles du M23. Ces discussions se tiennent sous l'égide de la communauté des États d'Afrique de l'Est dont les facilitateurs et l'ancien président Uhuru Kenyatta. Félix Tshisekedi de la RDC et Paul Kagame du Rwanda ont participé depuis leur pays par visioconférence. Sur le terrain, un calme précaire règne depuis ce week-end. Aucun combat n'a été signalé entre les M23 et l'armée congolaise. Les deux camps s'observent sur les différentes lignes de front, dont celle de Kibumba à 20 km de Goma. Mercredi dernier, un mini-sommet à Luanda avait décidé une cessation des hostilités dès vendredi soir, suivie 2 jours plus tard du retrait des rebelles du M23 et de leur repli dans leurs positions initiales. Mais aucun mouvement de retrait n'a été observé ce lundi. Nous demandons les dialogues avec les gouvernements et à ces moments-là, nous discuterons de ce sujet, a déclaré Willy Ngoma, porte-parole militaire du M23. Les sommets de Luanda ont ajouté que si les rebelles du M23 refusent de se retirer, la force régionale est-africaine en cours de déploiement à Goma ferait usage de la force pour les pousser à se soumettre. Tant que les M23 occupera des positions du territoire congolais, les gouvernements de Kinshasa refusent de discuter avec les M23 qu'ils qualifient des mouvements terroristes soutenus par le Rwanda.
Au Nigeria, la commission électorale a indiqué qu'un de ses bureaux a été incendié hier par des hommes non identifiés dans l'état de Boni, dans le sud-est du pays. Ce nouvel incident intervient à moins de 3 mois de l'élection présidentielle prévue le 25 février. Nathalie Barge.
La commission électorale a indiqué que tout le matériel et de nombreuses cartes d'électeurs du bureau du gouvernement local d'Izi à Iboko ont été détruits dans l'incendie. Il s'agit du troisième incident de ce genre en novembre après l'attaque de deux bureaux électoraux dans le sud-ouest, une région habituellement épargnée par ces violences. L'INEC a recensé au moins 50 incidents dans le pays depuis le début de la campagne électorale il y a moins de deux mois. Plusieurs attaques dans le sud-est du Nigeria ont été attribuées au mouvement indépendantiste pour les peuples indigènes du Biafra. L'IPOB a nié toute responsabilité dans ces violences. Selon les médias locaux, plus de 100 policiers et autres agents de sécurité ont été tués depuis le début de l'année dernière dans des attaques ciblées à travers le pays. Le 25 février, les Nigérians doivent élire un nouveau président pour succéder à Muhammadu Buhari, qui ne peut pas se représenter après ses deux mandats de 4 ans.
Au Comores, l'ancien président Ahmed Abdallah Sambi a été condamné à la prison à vie dans un procès pour haute trahison qu'il dénonce comme inéquitable. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
Ahmed Abdallah Sambi est condamné à la perpétuité et à la dégradation de son droit de vote et d'éligibilité. C'est ce qu'a décidé la Cour de sûreté de l'État, une juridiction spéciale dont les décisions ne peuvent pas faire l'objet d'appel. La Cour a aussi ordonné la confiscation de ses biens. M. Sambi a refusé de se présenter pendant les débats, soutenant que la composition du tribunal est illégale. Il est accusé d'être impliqué dans le scandale de la citoyenneté économique. L'ancien président comorien de 2006 à 2011 avait fait voter en 2008 une loi permettant de vendre au prix fort des passeports à ceux en quête d'une nationalité. M. Sambi est accusé d'avoir détourné une fortune dans le cadre de cette vente de passeports. Selon le procureur, le préjudice pour le gouvernement s'élève à plus de 1,8 milliard d'euros. L'ancien vice-président Mohamed Ali Sohilihi a écopé de 20 ans de prison. L'homme d'affaires franco-syrien Bachar Kiwan a été condamné à 10 ans de prison et la justice comorienne a lancé un mandat d'arrêt contre lui.
Les avocats du Tchad ont annoncé aujourd'hui cesser toute activité à partir de demain mardi pendant toute la durée d'un procès de masse de 401 personnes arrêtées pendant et après une manifestation contre le pouvoir réprimée dans le sang le 20 octobre.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les autorités de Pékin ont tenté aujourd'hui, avec une présence policière soutenue, de freiner le mouvement de colère d'une ampleur historique de Chinois exaspérés par les restrictions sanitaires et réclamant plus de liberté. Nani Talani.
Une foule de manifestants répondant à des appels sur les réseaux sociaux est descendue dimanche dans les rues à Pékin, Shanghai et Yuan, prenant les forces de l'ordre au dépourvu. Parmi les slogans scandés à l'unisson, « pas de test Covid », on a faim, Xi Jinping démissionne ou non au confinement, nous voulons la liberté. L'incendie mortel survenu dans le nord-ouest a catalysé la colère de nombreux Chinois. Certains accusent le confinement d'avoir bloqué le travail des secouristes. Ces manifestations ont fait surgir des demandes pour plus de liberté, voire pour le départ du président Xi Jinping, qui vient d'être reconduit pour un troisième mandat à la tête du pays. La mobilisation semble la plus importante depuis les émeutes de 1989. Ce matin, la présence policière était visible à Pékin et à Shanghai. La censure a été vite rétablie ce lundi sur les réseaux sociaux chinois. Toute information sur ces manifestations d'hier dimanche semble avoir été effacée.
Les discussions entre les États-Unis et la Russie sur le désarmement nucléaire qui devait avoir lieu cette semaine ont été reportées, ont annoncé aujourd'hui le ministère russe des Affaires étrangères et l'ambassade américaine à Moscou. Et puis le glissement de terrain provoqué samedi par de fortes pluies sur la petite île italienne d'Ischia a fait 8 morts selon un nouveau bilan publié ce lundi. Le précédent bilan faisait état de 7 morts. 4 personnes sont encore portées disparues selon la préfecture de Naples, dont dépend Casamicciola, Terme, une station thermale de 8000 habitants sur cette île dans la baie de Naples. Avant la pause, on donne le résultat de football entre le Portugal et l'Uruguay, 0-0 à moins de 3 minutes de la mi-temps.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. À Yaoundé, la capitale camerounaise, les secouristes recherchent d'éventuels survivants piégés par un glissement de terrain qui a fait dimanche au moins 15 morts et plusieurs blessés. Les victimes assistaient à des funérailles lorsque le glissement de terrain s'est produit. Le reportage de Moki Edwin Kinzeka depuis Yaoundé, le récit avec Nani Talani.
Des civils endeuillés se joignent aux secouristes pour creuser et rechercher d'éventuels survivants piégés sous un énorme tas de décombres. Le sol et les pierres se sont effondrés dimanche soir sur plusieurs centaines de membres d'une communauté de l'ouest du Cameroun qui s'étaient rassemblés pour des funérailles de personnes décédées au cours du mois dernier. Rosette Ngefak, 50 ans, fait partie des personnes endeuillées. Elle dit avoir vu le sol s'effondrer sur des dizaines de personnes, dont ses deux fils.
Il a fendu la tête et cassé la main. On était à l'hôpital général. On a fait le scanner. À 2 heures, c'est sorti. On dit que le cerveau n'est pas touché, mais l'enfant est gravement blessé. Il est encore en réanimation. C'était trop grave. Le motoman est mort sur place et il y avait beaucoup de blessés.
Il est de tradition au Cameroun d'organiser des événements funéraires dans les villes après l'enterrement des membres de leur communauté dans les villages. Les personnes qui assistaient aux funérailles de dimanche ont déclaré qu'elles avaient prié pour les défunts et qu'elles partageaient des boissons et de la nourriture lorsque le malheureux incident s'est produit. Nasri Paul Beya, gouverneur de la région du centre du Cameroun, où se trouve Yaoundé, s'est rendu sur le site de la catastrophe pour la deuxième fois en 15 heures ce lundi matin. Il affirme que les enquêtes menées par la police camerounaise indiquent que certains civils sont toujours piégés dans le glissement de terrain.
Il y a des corps qui avaient été retirés déjà par la famille. Le secours a été vite avec les sapeurs, l'état-major du gouverneur, le préfet général. Pour le moment, nous sommes en train de transporter les corps à la morgue de l'hôpital central. La troisième tente qui est vers le mur, sur un talus, a donc été touchée par un glissement de terre qui a tué les occupants de ce chapiteau.
Selon le gouvernement, le glissement de terrain s'est produit lorsqu'un talus de 18 mètres de haut s'est effondré sur plusieurs centaines de personnes rassemblées dans une maison construite dans une zone à risque. D'après le gouverneur Beya, le talus qui a cédé n'était pas assez solide pour empêcher le sol de s'effondrer. Le ministère camerounais du logement a demandé lundi aux personnes vivant dans des zones jugées à risque de quitter immédiatement les lieux ou d'être contraintes de se reloger ailleurs. Yaoundé, une ville d'environ 3 millions d'habitants, a connu des inondations dévastatrices causées par de fortes pluies au cours des 3 derniers mois. Le gouvernement affirme que plus de 25 maisons construites dans des zones à risque se sont effondrées, blessant et tuant des dizaines de personnes.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Au Togo, les grands travaux de préservation d'une partie de la côte du pays, sujette à l'avancée inexorable de la mer, viennent de débuter. Sur une distance de 15 km vers la frontière est du Bénin voisin, 13 épis de roches seront disposés dans la mer afin de stabiliser la dérive des sédiments et amoindrir l'érosion côtière. À Lomé, le reportage de notre correspondant Kossi Oussou.
Au bout de la rue qui traverse le village d'Agbodrafort, dont une partie a été emportée par la mer, Agbassa Atta Nikwe, président du comité villageois de développement, le regard fixé vers l'horizon, se désole de la situation de sa localité.
Nous avons une côte où nous pratiquons le football. Nous nous amusons là-bas à la plage. Aujourd'hui, on n'a plus de plage. La mer avance.
à 5 mètres chaque année. Moi qui vous parle maintenant, j'ai perdu des hectares de terrain. C'est englouti dans la mer. Moi, je suis inquiet.
Les inquiétudes d'Agbassa Atanikoué sont partagées par tous les habitants des villages côtiers du Togo où la mer avance par endroits de 12 à 30 mètres par an au point critique. Le gouvernement, à travers le programme de gestion du littoral ouest africain WACA, avec l'appui de la Banque mondiale, vient de lancer les travaux de protection d'urgence de la côte. Adou Raimi Alimi Assimiou est le coordonnateur du projet WACA au Togo.
Aujourd'hui, les travaux que nous avons tant souhaités ont commencé fort heureusement. Et je crois qu'à partir de là, les attentes des uns et des autres, surtout les communautés qui étaient tellement impatientes que les travaux ne commencent aujourd'hui, je crois qu'au moins tout ça est dissipé.
À Aného, les camions déchargent déjà d'énormes blocs de pierre sur la plage. César Ezebio, l'ingénieur génie civil senior du projet, donne des détails sur les travaux à effectuer.
Entre Agbodrafo et Pémé, nous prévoyons de construire 7 nouveaux épis. Entre les épis, c'est prévu donc de faire le chargement en sable de mer. Maintenant, côté Aného, il y a 6 épis qui seront réhabilités, allongés. Il y a également le brise-lame qui également va être réhabilité, donc prolongé de 200 mètres. C'est prévu la construction d'une digue de sable au haut d'environ 5 mètres.
À terme, ces ouvrages vont permettre aux localités touchées par l'érosion d'avoir un répit d'au moins un demi-siècle. Tranquillin Vincent, ingénieur chargé de l'exécution des travaux.
Les épis et le brise-lame ont été l'objet de tests miniatures dans un laboratoire en France. Et les études de faisabilité technique avaient dimensionné ces ouvrages pour une durée de 50 ans. Par contre, les rechargements de sable entre les épis, ce rechargement a été dimensionné pour une durée de 20 ans.
Pour Dame Nyame Kokwe qui vit à la plage d'Aného, c'est un ouf de soulagement.
Nous remercions les initiateurs du projet WACA pour les solutions qu'ils sont en train de mettre en place pour que la mer ne nous envahisse plus. C'est vrai que le bruit des engins nous dérange, mais je pense que ce sera fini bientôt.
Dame Kokwe devra prendre son mal en patience car les travaux sur la côte togolaise vont durer 18 mois. Kossi Woussou, Lomé, pour VOA Afrique.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique, 24 heures sur 24, à Lomé, sur 102.3 FM.
Si le Sénégal a attendu plus de 60 ans avant de remporter sa première Coupe d'Afrique des Nations de football, il est par contre le pays le plus titré du continent en beach soccer. Avec 7 titres à son actif, l'équipe nationale du Sénégal de beach soccer vient de gagner la dernière Coupe d'Afrique qui s'est tenue le mois dernier au Mozambique. Pour comprendre l'hégémonie du Sénégal sur le beach soccer africain, Abdourahman Dia, notre envoyé spécial à Dakar, s'est rendu sur une plage de la capitale sénégalaise et y a rencontré quelques pratiquants. Reportage.
Le Sénégal a une façade maritime longue de 700 km. Avec de moins en moins d'espace disponible pour jouer au football, c'est au bord de cette façade maritime, comme ici sur la plage de Diamalay, dans la banlieue dakaroise, que beaucoup de jeunes viennent jouer au football. Cela a donné l'opportunité à beaucoup d'entre eux de se faire remarquer et d'être sélectionnés dans l'équipe nationale de beach soccer. Et pourtant, l'ultime rêve de la plupart de ces jeunes, c'est d'aller au-delà du beach soccer et de devenir footballeur professionnel et d'intégrer l'équipe nationale. C'est le cas de Hassan.
Ça me permet d'être en forme. Puis je viens ici pour jouer au football. C'est mon rêve, quoi. Je le fais quand je vais à l'école, parce que je suis dans deux ans de centre de formation. Et quand je viens ici, je viens pour m'amuser, quoi. Mon rêve, c'est d'aller en équipe nationale. Non, équipe nationale, comme ça, Yoann.
Suleiman aussi espère devenir un grand footballeur professionnel. Il est d'ailleurs dans une école de football, mais il vient souvent à la plage pour pratiquer davantage et maintenir sa forme physique.
Au Sénégal, beaucoup de personnes aiment le football. Moi, j'aime le football depuis 2010. Je pense toujours que je peux y réussir. Je suis même dans une école de football à Grand Yoff. Je m'entraîne là-bas mercredi, samedi et dimanche matin. Mais aujourd'hui, je ne suis pas allé là-bas. Mon rêve, c'est d'intégrer l'équipe nationale du Sénégal.
Seulement, le football de plage n'est pas sans risque. Ici, il y a très peu de règles et beaucoup se retrouvent avec des blessures qui finissent par briser leur rêve de devenir footballeur professionnel.
Ils n'ont pas des jours et ils viennent ici pour jouer pour. Ils jouent avec la force. Ça, ici, on est venu ici pour se balader, quoi. Pour juste jouer au foot, c'est juste notre rêve, quoi.
Mais bon, je
peux gagner une meilleure forme physique ici avec les entraînements, mais il y a un risque aussi. Si tu te blesses, personne ne va te soigner. Ils vont juste s'excuser, te demander pardon, juste comme ça.
Le football est le sport roi au Sénégal. Le beach soccer permet à ceux qui rêvent de devenir professionnels et ceux qui viennent juste pour pratiquer une discipline qu'ils aiment de se retrouver ensemble sur la même aire de jeu. Abdourahmane Dia, VOA Afrique, Dakar.
Écoutez VOA Afrique désormais partout en Afrique. Retrouvez toutes vos émissions préférées sur la chaîne 555 de Canal+, dans tous les pays francophones. Vous pouvez également nous suivre dans une trentaine d'autres pays africains. Du Nigeria au Zimbabwe, en passant par le Ghana, le Kenya, la Tanzanie et la Zambie. VOA Afrique dans tout le continent africain sur la chaîne 555 de Canal.
L'administration Biden souhaite obtenir du Congrès une nouvelle aide de 37 milliards de dollars en faveur de l'Ukraine dans les semaines à venir avant le début de la nouvelle législature en janvier. Reportage Michel Quinn, récit Jeniniwa.
C'est l'hiver en Ukraine où la lutte contre l'invasion russe se poursuit depuis 9 mois. Le Congrès américain a accordé un soutien bipartisan à l'aide à l'Ukraine, mais cela pourrait changer. Certains dirigeants du Parti républicain qui détiendront une faible majorité à la Chambre lorsque la nouvelle législature débutera en janvier disent qu'ils examineront de près les programmes proposés par l'administration Biden pour venir en aide aux Ukrainiens. Mike McCall, un républicain du Texas et le membre le plus important de la Commission des affaires étrangères de la Chambre basse, le voici à l'émission This Week sur la chaîne ABC.
We are going to provide...
Nous allons assurer plus de contrôle, de transparence et de responsabilité. Nous n'allons pas faire un chèque en blanc.
L'aide précédente à l'Ukraine a été approuvée avec un large soutien bipartisan. L'administration Biden espère l'octroi de 37 milliards de dollars d'aide d'urgence pour l'Ukraine afin de s'assurer que ce pays et son armée disposeront d'un financement pour les prochains mois. Ce package comprend 21,7 milliards de dollars pour l'armée, le renseignement et d'autres soutiens de défense et 14,5 milliards de dollars d'aide humanitaire et pour le gouvernement ukrainien selon l'administration Biden. Jack Sullivan, le conseiller à la sécurité nationale de l'administration Biden, a réitéré le soutien américain à l'Ukraine lors d'une visite à Kiev au début du mois.
Les États-Unis resteront aux côtés de l'Ukraine aussi longtemps qu'il le faudra dans ce combat. Il n'y aura ni hésitation, ni indécision, ni vacillement dans notre soutien à mesure que nous avançons.
Bien qu'il y ait une certaine opposition au soutien de l'Ukraine dans les deux parties, certains républicains ont critiqué la taille des programmes d'aide antérieurs à l'Ukraine et demandent si tout l'argent est effectivement allé à la nation en difficulté. Ils s'interrogent également sur le suivi fait par l'administration Biden quant à l'utilisation de cette aide. De nouveau, le député Michael McCall.
Nous allons le faire de manière responsable avec transparence envers le peuple américain. Il s'agit de l'argent du contribuable américain. Est-ce que cela diminue notre volonté d'aider le peuple ukrainien à se battre? Non. Nous allons le faire de manière responsable.
Selon des responsables ukrainiens, des travaux de réparation étaient en cours ce week-end pour établir le réseau électrique perturbé par les frappes de l'armée russe. La Russie a en effet bombardé plusieurs zones dans l'est et le sud de l'Ukraine durant les dernières 72 heures.
Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Billon à ce micro. À la mise en onde, Georges-Léonard Sagnot. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24h sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bangui sur 101.7 FM. Kledou FM, Bamako. Golf FM, Cotonou. Alfaïda FM, Kaolack, Sénégal. Et bien d'autres encore. Sans oublier sur ondes courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.